Alors, si vous n'avez pas compris le texte, le sketch, on va vous lire le texte qui correspond dans la Bible, donc on a interprété version moderne. Donc c'est 1 roi 19, verset 9 à 18. Okay. Le roi Achab raconta à Jézabel, sa femme, tout ce qu'Élie avait fait et comment il avait mis à mort tous les prophètes de Baal. Jézabel envoya alors un messager pour avertir Élie en ces termes.
Si demain, un pareil heure, je ne t'ai pas traité comme tu as traité ces prophètes, que les dieux m'infligent la plus terrible des punitions.
Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit à Bécheba, dans le pays de Juda. Là, il laissa son serviteur. Puis il marcha pendant une journée dans le désert et alla s'asseoir sous un des bustes, un genêt. Il souhaitait mourir et dit
« Maintenant, Seigneur, j'en ai assez. Reprends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. »
Puis il se coucha et s'endormit sous le genêt. Mais un ange vint le toucher et lui dit
« Lève-toi et mange. »
Et il vit en effet près de lui une de ces galettes que l'on cuit sur des pierres chauffées et un pot d'eau. Après avoir mangé et bu, il se recoucha. Mais l'ange du Seigneur revint le toucher et lui dit
« Lève-toi et mange, car tu devras faire un très long voyage. »
Élie se leva donc pour manger et boire, puis avec les forces trouvées dans ce repas, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Arrivé à l'Horeb, Élie entra dans une caverne où il passa la nuit. Alors le Seigneur lui adressa la parole.
« Pourquoi es-tu ici, Élie ?»
Il répondit.
« Seigneur, Dieu de l'univers, je t'aime tellement que je ne peux plus supporter la façon d'agir des Israélites. En effet, ils ont rompu ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. »
« Sors, lui dit le Seigneur, tu te tiendras sur la montagne. Devant moi, je vais passer. »
Aussitôt, un grand vent souffla, avec une violence telle qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas présent dans ce vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas présent dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu, mais le Seigneur n'était pas présent dans le feu. Après le feu, il y eut le bruit d'un léger souffle. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage avec son manteau, il sortit de la caverne et se tint devant l'entrée. Il entendit de nouveau une voix qui disait
« Pourquoi es-tu ici, Élie ?»
Il répondit « Seigneur, Dieu de l'univers, je t'aime tellement que je ne peux plus supporter la façon d'agir des Israélites. En effet, ils ont rompu ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. »
Mais le Seigneur lui dit «
Va, retourne par le même chemin à travers le désert et rends-toi à Damas. Tu iras y consacrer de ma part Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu iras consacrer Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour te succéder comme prophète. »
Alors, Timothée 1, versets 15 à 19. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi.
Alors, enfin, c'est un peu bizarre pour moi d'être ici devant vous, parce que pour une fois, je vais pas faire l'imbécile derrière dans un sketch, mais je vais vous parler d'un truc que j'ai vécu avec Dieu. Il y a pas très longtemps, ça parle de désert. Et puis, justement, en faisant cette histoire d'Élie, je me retrouvais un peu dans la même situation, enfin, dans la même situation que lui. Enfin, j'ai trouvé quelques similitudes. En fait, c'était une semaine avant le camp de ski. J'avais dit, enfin, j'étais pas bien au dedans de moi parce que j'avais, je sais pas trop comment l'expliquer, mais j'étais en conflit avec moi-même et c'est toutes des choses que je voulais régler moi-même parce que, enfin, je sais pas exactement, mais c'était, ouais. J'étais vraiment pas bien et puis pendant cette semaine-là j'avais décidé de parler de ça à quelqu'un parce que je pensais que ça allait m'aider et puis le soir où j'ai voulu appeler cette personne et ben j'ai pas réussi à l'appeler je sais pas pourquoi d'ailleurs mais c'était impossible et en attendant en fait de pouvoir l'appeler j'ai ouvert un livre et puis dans ce livre je suis tombé sur un passage de la Bible. Donc c'est dans Osée, c'est Osée 2, verset 16. Et en fait, ça dit cela. C'est pourquoi je la séduirai, je l'emmènerai au désert et je parlerai à son cœur. Et je ne sais pas exactement pourquoi, mais à ce moment-là, tous mes doutes, tous les conflits que j'avais en dedans de moi sont partis. Et puis... je me suis retrouvé, je me suis retrouvé tout d'un coup complètement en paix. C'était quelque chose de vraiment bien. Et puis, en fait, la plus grande chose que j'ai appris, en réfléchissant, je me suis dit, j'avais un problème, je voulais le partager à quelqu'un, mais c'est marrant parce que Dieu a fait en sorte que je puisse pas le partager à cette personne et que ce soit lui qui me parle à travers un texte. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais tu avais aussi envie de régler des problèmes toi-même, mais ces problèmes, tu peux pas le régler toi-même parce que tu n'es juste pas assez fort. Tu peux régler plein d'autres trucs, mais ça, c'est pas possible. Et il n'y a que Dieu qui peut t'aider pour ça. Et ce que je trouve un peu similaire avec l'histoire d'Élie, c'est que j'étais dans un désert, j'étais vraiment pas bien, et j'avais aucune sortie, aucune solution. Et puis c'est un peu comme s'il m'avait apporté cette nourriture, et puis qu'il me disait, prends ma nourriture, c'est qu'avec ça que tu peux aller vraiment plus loin. Voilà.
Merci beaucoup, Florian, d'avoir donné ce magnifique témoignage. Merci aussi aux jeunes pour le sketch. Là, ils se sont donnés. Ils n'avaient pas beaucoup de temps pour préparer. Et puis, vous voyez que vos jeunes ont des ressources incroyables. Alors, je profite pour dire, puisque j'ai eu le plaisir de faire un camp de ski avec eux, que c'était un magnifique groupe de jeunes. Et je pense que vous avez... Je m'adresse là aux plus âgés. Beaucoup de chance d'avoir cette équipe au milieu de vous, avec plein d'imagination, de créativité, d'amour pour le Seigneur. Et puis, je dirais aussi, ce qui m'a frappé, c'était le sérieux. Ils sont très sérieux, surtout en matière de discipline. En particulier, il fallait être là au petit déjeuner et celui qui avait 30 secondes de retard recevait une corvée ou quelque chose comme ça. Donc, je peux vous dire que c'était strict. Hein. Et nous aussi, d'ailleurs, on devait se plier avec ma femme. Donc, on s'est plié aussi. Voilà, on a pris un petit coup de jeûne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis déguisé pour les jeunes. Je profite pour excuser ma femme. Effectivement, elle n'est pas là. Elle est un week-end des casses, mais elle ne fait pas un casse. Hein. C'est les casses, c'est les chrétiens au service de la santé. Donc, comme elle est aumônier au CHUV, elle était réquisitionnée pour ce temps. Alors elle vous salue bien, et j'en profite aussi pour transmettre les salutations de l'église de Renon, où je suis pasteur depuis maintenant quelques mois, des jeunes aussi, et puis de l'équipe d'anciens. Donc nous sommes dans une petite église qui ressemble étrangement à celle-là qu'on voit là au travers des flocons de neige, et où il fait peut-être un peu moins chaud. Excusez-moi le gag. C'est parce que la nôtre chauffe pas très bien. Voilà donc, ce matin, on se retrouve avec cette thématique qui a été déjà largement abordée. Et c'est vrai qu'elle a été faite, ça a été fait de différentes manières. Donc j'ai beaucoup aimé cette entrée en matière de cet homme, effectivement, qui se retrouve d'une certaine façon au désert. Alors, un petit clin d'œil tout d'abord au niveau de la jeunesse. Je vous rappelle qu'un texte historique, ça ne se traite pas comme un texte prophétique, puisque nous avons eu l'occasion pendant le camp de ski de voir un ou deux textes prophétiques, ni comme une parabole. Un texte historique, ça se lit un peu avec l'idée, il y a quelque chose à comprendre et à vivre dans le contexte même du livre, et puis bien sûr tout ce que ça veut dire aujourd'hui pour nous. Et dans ce sens, les jeunes l'ont bien compris puisqu'ils ont actualisé cette histoire. Alors on se trouve là, ici, avec quelque chose d'assez étonnant. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui a brillamment réussi. Il vient de remporter une magnifique victoire contre les prophètes de Baal. Il y a eu une démonstration de Dieu extraordinaire. Si vous connaissez un petit peu le texte qui précède, vous vous souvenez peut-être qu'il y avait deux autels, un autel de Baal et un autel à Dieu, et puis que les prophètes de Baal ont fait des espèces d'incantations pour que le feu de Baal vienne sur l'autel et brûle le sacrifice. Rien ne s'est passé. Et puis Élie a fait une simple prière, j'allais dire une simple prière. Et le feu du ciel est tombé. Et là, l'holocauste, enfin, ça a été un sacrifice qui a été un holocauste. C'était un signe de Dieu. Et dans ce sens, Élie a fait la démonstration que c'était bien lui, le vrai prophète. Oui, Élie s'était préparé pour ça. Il avait passé déjà du temps dans le désert, dans le torrent, nourri par les corbeaux. Élie avait une expérience profonde de Dieu. Et là, quand il vient devant le peuple et qu'il remporte cette victoire, c'est lui qui tient les rênes. En plus, si vous vous souvenez, il y a un petit épisode un peu difficile où il va égorger les prophètes de Baal dans le torrent. Alors ça, c'est le genre d'épisode qui nous fait un peu froid dans le dos, mais enfin, apparemment, c'était sa mission d'expurger le pays de toute cette clique qui avait détourné les Israélites de la voie de Dieu. Et voilà que soudain, sur une simple parole, celle de la reine Jézabel, sinistre reine qui mène le pays sous sa botte, une simple parole fait que cet homme-là se retrouve dans le désert et demande la mort. Alors déjà là, il y a quelque chose de difficile à comprendre. Comment ça se fait? Est-ce qu'il n'aurait pas pu continuer dans sa lancée, aller peut-être provoquer Jézabel ou Akab? Il avait quand même là des partisans, maintenant les gens avaient vu, ils avaient compris la démonstration de puissance. Mais non, cet homme se retrouve là, à plat. Alors j'aimerais dire que cette situation me fait tout de suite penser à ce que d'innombrables personnes peuvent vivre aujourd'hui. C'est vrai, on voit des gens quelquefois qui s'élèvent, et plus ils sont élevés, plus dure est la chute, comme on dit quelquefois. Alors je ne voudrais blesser personne, surtout pas les banquiers parmi nous, mais aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas terrible pour eux. Donc par rapport à ça, il arrive que quelquefois, on puisse se trouver dans des situations de réussite, je lâche le mot, réussite, et puis tout d'un coup, se retrouver en complète dépression. Parce que c'est ce qui arrive à Élie. Alors des gens diront peut-être burn-out, dépression, vous savez, les mots aujourd'hui, le poids des mots. En attendant, cet homme-là n'a plus envie de se battre. Il s'est passé quelque chose en lui, il y a un ressort qui s'est cassé. Et j'aimerais vous poser la question, est-ce que ça ne vous est jamais arrivé à vous qu'un ressort se casse et puis que vous n'ayez plus envie de rien? Alors, notre ami Florian est resté discret, mais on a compris que pour lui, il y a quelque chose qui s'était cassé à un moment donné. Et cela, on peut le vivre. Et je connais des gens qui ont été brillants, des chrétiens qui ont été vraiment forts, qui ont fait aussi, eux, des démonstrations de vie, de foi, et tout d'un coup, qui se sont retrouvés dans le désert, dans le doute, en se disant, « Mais Seigneur, j'ai plus envie, allez, donne-moi la mort. Je suis au bout de la route. » Dans ce sens, vous aurez remarqué que Dieu ne laisse pas faire. Et j'aime ce passage où l'ange vient. Alors c'était un ange brillant, celui-ci là, avec un chapeau de fée. Je ne sais pas comment vous imaginez les anges, mais en réalité, pour ceux et celles qui en ont fait parfois l'expérience, c'était peut-être simplement un peu de lumière. Là, il y a quand même des paroles qui sont données. C'est un ange bien réel qui vient toucher Élie, qui vient le secouer. Un peu comme on secourait quelqu'un qui est en train de partir dans la mort et qui lui dit « Maintenant, tu vas manger. » J'ai bien aimé quand j'étais gamin et que je lisais ce texte, il s'agissait d'un gâteau. Un bon gâteau. Alors je m'imaginais, vous savez, une tourte montée quand on me racontait ça. Puis après, j'ai quand même réalisé qu'il devait s'agir d'un peu de pain. Avec peut-être un petit peu plus, hein. On dirait un pain complet ou avec un peu de miel, quelque chose de bon. Et vous aurez remarqué que Élie ensuite s'endort. Il a mangé, il est repu, il s'endort. Et l'ange le réveille une deuxième fois. N'est-ce pas magnifique? Parce que quelque part, il sait que Élie aura besoin de ce pain-là pour faire la route, comme le texte nous le dit. J'aime la sollicitude de Dieu. J'aime cet ange qu'il a envoyé pour dire « Allez, maintenant reprends des forces, te laisse pas aller. » Il ne lui fait pas la morale, il n'est pas en train de lui dire « Oh Élie, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Non, il le secoue pour lui donner à manger. Et j'aime cela parce que je crois que Dieu fait cela avec nous dans des moments où on est cuit. Où on ne peut plus aller de l'avant. Il n'est pas en train là de nous dire, mais que fais-tu, vermisseau, relève-toi. Il nous dit, mange. Et vous savez, il y a quelquefois des gens qui sont tellement au bout du rouleau que ça ne sert à rien de leur servir une tartine de versets bibliques. Mais une vraie tartine, oui, ça, oui. Du pain, quelque chose de bon. Viens, refais tes forces. Reprends-toi, mais refais tes forces pour toi parce que tu en as besoin. Et je crois que ça, c'est un geste d'amour. C'est quelquefois ce geste que nous recevons de la part encore aujourd'hui de Jésus, du Christ qui nous dit, viens et mange, repose-toi. Ne cherche pas à t'en sortir, mais juste repose-toi, détends-toi, mange. Bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. Et on se rend compte qu'ensuite, il va falloir faire cette route. Alors, il y a les 40 jours qui nous font étrangement penser aux 40 jours de Jésus dans le désert. Hein, vous voyez, il y a une typologie extraordinaire et on pourrait s'arrêter là bien plus longtemps que je ne le fais ce matin. Les 40 jours qui le mènent jusqu'au moment où Élie va de nouveau pouvoir entrer en contact avec Dieu. La route est longue quelquefois dans le désert. Et j'ai remarqué ça chez des personnes qui passent par des moments difficiles. Quelquefois, ça prend du temps. À côté de mon ministère pastoral, j'ai un cabinet de conseil conjugal. Et j'entends souvent les gens me dire, il nous faut du temps. Il nous faut du temps pour pouvoir de nouveau aimer. Il nous faut du temps pour pouvoir de nouveau rentrer en contact. Il nous faut du temps pour nous reprendre. Ce n'est pas un temps facile d'ailleurs, c'est un temps de désert. Et pour ceux qui ont eu le privilège d'aller une fois dans le désert, vous savez que dans le désert, eh bien justement, il n'y a rien. Il y a une énorme présence et puis en même temps, il n'y a rien. C'est un paradoxe. Dans le désert en particulier, il y a une chose qui m'a frappé. J'ai eu l'occasion d'y aller une fois dans les dunes, là, vous savez, de Tintin et du capitaine Haddock. Hein. C'est la qualité du silence. Le silence. On n'entend rien. Peut-être un petit peu de souffle, un peu de vent. Mais il y a une pureté extraordinaire du silence. Alors Élie fait cette expérience-là, lui qui avait déjà connu la solitude, il refait une expérience de solitude. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la même. Elle est plus dure. Elle est faite de plus de contrastes qu'à l'époque où il était dans le désert. Et finalement, donc, il va arriver dans ce moment de dialogue. Et frères et sœurs, là aussi, j'aime ce dialogue. Parce que vous aurez remarqué, le texte raconte deux fois la même chose. Deux fois, Élie dit « Ouais, je suis resté tout seul. Je suis là tout seul, abandonné, sur une île déserte. » C'est pas vrai. En réalité, il y a 5000 hommes qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Donc Élie n'est pas seul. Simplement, dans ces moments-là, dans des moments de trou, on est tout seul. Et on voit rien. On voit personne autour de nous. Dans ce sens, le texte aussi est fameux parce qu'il nous montre que finalement il va y avoir tout un cheminement jusqu'à ce que Élie puisse entendre à nouveau sa mission. Et dans ce sens, il faudra qu'il s'explique deux fois hein, et qu'il rentre dans la caverne. Alors là aussi encore, je vais m'arrêter un instant sur cet épisode de la caverne qui est connu. Vous avez entendu certainement 25 prédications et demie pour les plus âgés, hein. Mais j'aime ce texte parce qu'il nous dit que Dieu n'est pas dans le tonnerre, il n'est pas dans l'éclair, mais il est dans ce murmure doux et subtil. C'est vrai que des fois, on a besoin d'une démonstration de puissance de Dieu. Moi, je me suis trouvé quelquefois dans ma vie chrétienne où j'avais besoin de voir un coup de poing de Dieu, quelque chose où vraiment Dieu se manifeste. Alors, tu es Dieu, enfin, manifeste-toi. Bam! Mais il y a aussi de ces moments où on ne peut pas entendre ça. Et puis même si on l'entendait, on douterait peut-être encore que ça vient de Dieu. Non, on est juste capable d'entendre ce murmure doux et subtil. Ça, c'est la douce voix de Dieu. Ça, c'est quelque part ce qui a été préparé pour Élie. C'est quelque chose qu'il ne connaissait pas tellement finalement. Il a plutôt connu la puissance et il lui faut comme réapprendre un autre Dieu, une autre manière. Parfois, nous nous sommes habitués à ce qu'il y ait des manifestations de force et nous devons quelquefois perdre la foi, si j'ose dire, perdre notre conception de Dieu pour entrer en contact avec un autre Dieu que nous ne connaissons pas encore. Et pour les plus âgés qui sont parmi nous, peut-être vous savez, vous connaissez Dieu depuis longtemps, mais est-ce que Dieu peut encore vous étonner? Est-ce que Dieu peut encore parler d'une autre manière? Ou vous ne vous dites pas, ah ouais, mais ça, je connais. Donc, Élie est en train de faire cet apprentissage dans une voix douce. Et j'aime beaucoup cette voix encore parce que j'aimerais dire qu'il y a toute la bonté, toute la douceur de Dieu, tout l'amour de Dieu, un amour qui va le tapisser intérieurement. Frères et sœurs, j'en viens à un point qui me semble fondamental et sur lequel j'aimerais mettre l'accent ce matin. J'aimerais dire qu'aujourd'hui, les gens, beaucoup de gens autour de nous et peut-être vous-même, nous sommes vite au bout de nos ressources. On supporte plus grand-chose. Nos amis là qui se sont déguisés en soldats, j'aimerais dire qu'à l'armée, les jeunes ne supportent plus les ordres. Ils ne supportent plus de marcher et de ramper dans la boue. Oh, ils devront quand même le faire. Un lieutenant me disait un jour, « Je suis le papa de mes soldats. » Parce qu'il y en a qui viennent pleurer chez moi. Et nous sommes tous, dans un certain sens, un peu au bout de nos ressources quand on a fini notre semaine de travail, non? Vous ne trouvez pas? On a envie un peu de se vautrer sur un canapé, puis de presser sur un clic, n'importe quel clic, mais un clic qui fait allumer quelque chose. Avec un paquet de chips ou quelque chose comme ça. Le plateau télé, hein? Mais pourquoi? Parce qu'on est au bout de nos ressources. Parce qu'il y a les enfants qui pleurent. Parce qu'il y a le patron qui nous a hurlé dessus pour pas dire autre chose. Ou bien parce qu'on a nos employés qui réclament, hein, parce qu'il y a aussi des patrons. Parce qu'il y a une femme qui nous râle dessus. Parce qu'il y a un mari qui s'occupe jamais de nous. Et tout le monde est un peu au bout. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque de susceptibilité. Tout le monde est susceptible. On fait shping et la personne est déjà en train de dire « Je suis blessé. Ah !» Je devrais demander à Clément de revenir, faire « Ah !» Il sait très bien le faire, ce genre de choses. Et tomber par terre. Non, mais tu peux rester quand même. Donc, par rapport à cela, moi je suis étonné du fait qu'on est tellement susceptible, tellement vite au bout de nos ressources, tellement vite à plat. Notre société est une société fatiguée, une société qui a très peu de ressources. Et dans ce sens, ce texte peut nous parler. Vous savez, dans l'Église aussi, quelquefois, on est tellement susceptible. On a chanté un cantique de traviole. Ça se dit à Genève, de traviole, au canton de Vaud, oui. Ou alors, nos vieux cantiques. On n'en chante plus. Ou quand il y a des vieux cantiques, les jeunes qui disent « Oh, la barbe !» Vous savez, moi j'aimerais vous faire un aveu. Les cantiques que moi je chantais comme jeune, on ne les chante plus. C'est fini. L'autre jour, je me suis retrouvé avec un jeune là, de mon groupe de jeunes. Puis on pleurait ensemble. On disait « Ouais, nos cantiques, on ne les chante plus !» Ben évidemment, ils ne sont plus à la mode. Donc on est tous en train d'avoir des susceptibilités à gauche, à droite, dans l'église, dans la famille, au travail, qui fait que nous sommes au bout de nos ressources. Et c'est là que Dieu nous rééquipe, il nous reparle, il nous redit des choses. Il nous dit de nouveau, allez, refaites, et ce sera le dernier point que j'aimerais aborder, refaites un projet. J'aime l'idée d'un projet. Refaire un projet, c'est que la vie continue, même pour les plus âgés. C'est quoi votre projet pour demain, pour après-demain, pour dans une semaine, pour dans une année? Quand je vois des couples ou des familles, parce que nous rencontrons aussi des familles en difficulté, on passe un peu de temps pour regarder derrière, qu'est-ce qui s'est mal passé? Mais on leur dit, c'est quoi votre projet? Qu'est-ce que vous visez ensemble? Les jeunes font des projets, tant mieux. Et nous? Dans la middle age, je suis encore tout juste dedans. Bientôt, je serai dans la tranche supérieure. Il a peut-être 20 ans. Pour qui vous priez tous les jours? C'est quoi le projet? C'est quoi votre mission? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Ça, c'est le texte. Élie n'est pas fini. Il va devoir encore travailler. Et vous savez que il va bien sûr oindre un roi par-ci, un prophète par-là, mais sa mission ne sera pas terminée. Il aura encore du travail. Jusqu'au jour où il sera emmené, vous savez, par le char céleste, hein, Israël et sa cavalerie. Donc, Élie est un prophète puissant, mais il n'avait pas fini. Lui, il avait cru qu'il avait terminé, mais Dieu lui dit, « Non, 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 j'ai encore besoin de toi. » Et c'est ça. C'est sur cette touche que j'aimerais terminer. Aujourd'hui, Dieu nous dit, dans quel état qu'on se trouve, j'ai besoin de toi. Et ça, c'est peut-être le message le plus fantastique que je trouve de la part de Dieu, parce qu'en réalité, il n'a pas besoin de nous. Rien. Il peut se passer de nous et de tout le monde. Même des grands pontes, même de ceux qui annoncent des vérités du haut de la chair, vous savez, pff, bof, rien de plus. Mais il nous dit, il te dit, mon frère, ma sœur, du plus jeune au plus vieux, j'ai besoin de toi,
je vais te donner une mission. Alors, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à l'entendre? Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être parce que tu es dans le désert. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être parce que tu as de nouveau besoin d'entendre le murmure doux et subtil. Alors, je t'invite ce matin à faire un petit temps de silence et à entendre ce murmure et à sentir combien c'est bon d'être avec Dieu. Même si quelquefois Dieu nous dit « Oh, bah écoute, j'ai 2-3 reproches à te faire. » Mais en attendant, quel amour pour nous dire encore « Vas-y, relève-toi, marche, j'ai besoin de toi. » Amen. On va prendre un petit moment de silence là maintenant. Et puis, demandez, posez cette question à Dieu. Attendez-vous à quelque chose. Et puis, si ce n'est pas pour maintenant, ça sera pour chez vous. Pour aujourd'hui, pour demain, pour cette semaine.